À toutes et à tous, vous écoutez Radio Primitive, nous sommes en direct sur 92.4 FM à Reims. Les 65+ vous présentent le fruit de leur réflexion et de leur expérience. Nous allons évoquer chacun et chacune un thème qui nous est personnel. Nous vous proposons de débuter cette émission en ma compagnie. À notre association Art Déco de Reims, présidée et créée depuis septembre 2019 par Madame la Présidente, passionnée d'histoire, Danielle Fanconi. Siège situé au 21 cours Anatole France à Reims. Cette association Art Déco a été nommée membre de l'association internationale Art Déco, dont les sociétaires et les initiales sont ICADS, siège social à New York. Notre belle ville de Reims en est la 33e ville nommée, en même temps que Bruxelles et Londres. Tous les amateurs passionnés sont invités à nous rejoindre, ou, car collectivement, nous pourrons bien connaître ce mouvement qui a influencé les peintres, les peintures, les édifices, la mode, l'art de la table, les sculptures et accessoires, voitures, etc. Nous avons notre but est vous faire découvrir les associations en France pour échange et partage. Parfaire les réunions mensuelles qui seront pour nos connaissances proposées, voyage avec les bénévoles de notre association, les conférences, les balades, à Reims et son histoire. Ensuite, les visites des Hauts-de-France et du Grand Est. N'oubliez pas, restez tous à l'écoute sur 92.4, sans oublier l'influence de la musique, où nous sommes bercés par Django Reinhardt.
Thank you.
Et maintenant, dans l'émission des 65 et plus, c'est Jean-Marie qui va prendre la parole. Il revient d'une semaine en Alsace.
Merci Claude. J'ai effectivement passé une semaine à Nidernay, près d'Aubernais, donc c'est au pied des Vosges. Plus loin, nous avons la plaine d'Alsace et Strasbourg à seulement 30 km. Strasbourg et son fameux marché de Noël. Mais Nidernay est peut-être plus heimlich. C'est une expression alsacienne qui veut dire qu'on ne peut pas traduire, en fait, qui veut dire convivial, mais sans les inconvénients de la grande ville. Donc, le vignoble n'est qu'à quelques kilomètres. Et si vous en buvez trop du bon vin d'Alsace, vous risquez de chanter. Mais nous avons choisi une autre façon de chanter avec la chorale Aubernais Chante qui va ouvrir en quelque sorte le marché de Noël le samedi soir. Nous allons écouter sa présidente, Madame Mahler.
Alors ce soir, on n'était peut-être pas 70, il a manqué quelques-uns malheureusement qui ont été touchés par la Covid. Donc ici aussi, les rangs se sont un petit peu clairsemés, mais on a quand même, je pense, pu assurer un beau concert. D'après la tête, les applaudissements et les visages des gens, je pense qu'il a beaucoup plu. On a donc un répertoire très varié, issu de la chanson française, étrangère. Au moment de Noël, évidemment, on partage notre concert toujours en une partie profane, en début de concert, de première partie. Deuxième partie, c'est plus des chants liturgiques et des chants d'église, dont les chants de Noël.
Et vous-même, vous habitez au Bernay ?
Moi, j'habite à Hautrotte, un petit village à côté. Ouais. Voilà. Ouais, vous connaissez ? Voilà, ben oui, c'est vrai que tout ce que nous interprétons, c'est des chants qui souvent sont choisis par les choristes. Et en fait, c'est des chants à texte. Il faut que ça nous parle, que ça nous touche. Et du coup, on adore les interpréter et faire plaisir aux gens.
Alors ce soir, le concert était international parce qu'on a eu un musicien allemand. Alors, il avait un instrument très, très long. Je ne sais même pas comment on appelle ça.
Un corps des Alpes.
J'articule mal. On aurait dit une longue canne à pêche, parce qu'à la fin, il l'a démontée comme une canne à pêche, finalement.
Et elle tenait dans un sac à dos, finalement.
Ouais, donc elle tenait dans un sac à dos, c'est vrai. Donc, est-ce que vous allez participer au marché de Noël qui va venir là maintenant à deux pas d'ici?
Ah oui, tout à fait. Là, on va finir par tous se promener en ville et donc visiter ce magnifique marché de Noël de la ville de Nidernay.
Donc après le concert, nous allons effectivement aller sur le marché de Noël, mais accompagner des enfants des écoles qui vont chanter sur la place principale. Je vais donc les suivre jusqu'à la place du château.
Les enfants sont réunis, l'école primaire et l'école maternelle, pour chanter et défiler au marché de Noël.
Et vous-même, vous êtes professeur des écoles?
Non, je suis une maman.
Ah, vous êtes...
Je suis une maman.
Oui, vous êtes une maman. Alors les enfants, vous êtes...
Bonjour!
Et faut pas parler trop fort parce que sinon, les auditeurs, ils vont avoir les oreilles cassées. Ah, bonjour!
Ça c'est Noé, ça c'est Julien, ça c'est Octave.
Et vous faites quoi dans la ville? Vous allez vous promener
là,
simplement?
On va chanter.
Vous allez chanter quoi?
Noël des enfants du fond, petit papa Noël, Noël des enfants du monde et meilleurs goûts.
Ah, c'est sympa tout ça. Et je voulais vous demander, vous n'êtes pas professeur des écoles, mais est-ce qu'il y a une part de... pour l'enseignement de l'alsacien à l'école ou pas du tout?
Actuellement, je ne crois pas. Ils apprennent l'allemand, mais pas l'alsacien à l'école.
Ah oui, ils apprennent l'allemand?
Oui.
Ouais.
Ouais.
Mais dès...
Alors en CE1. Ouais, CE1. À partir du CE1, ils commencent déjà des mots d'allemand. Oui.
Ouais, mais c'est une bonne chose, je pense.
Ouais, c'est bien,
oui. La frontière n'est pas trop, trop loin. D'accord. Écoutez, je vous remercie.
Merci.
Merci
à vous, bonne continuation.
Allez, on se retrouvera peut-être sur autour d'un vin chaud.
Il faut croire à Noël.
Mais il fait bien froid et un bon vin chaud est le bienvenu, ainsi qu'une brûlante soupe aux haricots, la Bohnensuppe. Nous allons donc mieux connaître l'Alsace par sa gastronomie.
On veut bien savoir ce qu'il y a dedans, non ?
Ah ben oui, il y a déjà des saucisses de Montbéliard, sans doute, des saucisses de ménage. Ensuite, il y a toutes sortes de légumes. Pommes de terre, carottes, flageolets. Et les Nidernois, c'est des bonnes bûches. Ça veut dire en alsacien des ventres de haricots. Bonne bûche, bonne c'est haricots, bûche c'est ventre.
Que de vinorte.
Voilà. Ça veut dire bon Noël en alsacien. Merci.
Oui, donc je suis avec quatre personnes de Nidernais, peut-être.
Juste à côté, Maistratsheim.
Ah, mais j'ai fait de l'allemand, donc je suis pas trop de mal à prononcer ça.
Maistratsheim, voilà. Donc on fait un peu le tour des marchés de Noël dans les villages voisins pour manger une très bonne Bohnensuppe. Bohnensuppe veut dire des haricots et une soupe de haricots blancs.
Ouais. Donc, elle est bonne cette soupe ?
Elle est excellente.
Excellent.
Et on gagne du temps, on n'a même pas besoin de sortir nos casseroles à la maison, on les mange en direct.
Voilà, ici. C'est pratique. C'est pratique. Si je vous avouais qu'on a mangé une choucroute à midi à Bar.
À Bar, oui, pourquoi pas, c'est un bel endroit. De toute façon, en Alsace, il n'y a que des bonnes choucroutes. Il n'y a que des bonnes choucroutes, on mange trop trop bien ici. Vous avez vu nos tailles et nos échanges, on est bien costaud ici en Alsace. Ah.
Une bonne choucroute au champagne, c'est très bon également, hein, pour mélanger les deux. Hein. Et par contre, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les navets salés. Les navets salés, c'est exactement le même procédé que la choucroute. Vous remplacez la choucroute par des navets salés. Et vous mettez ça, et vous mettez les mêmes ingrédients avec. Vous pouvez même faire des navets salés au poisson. C'est excellent. Mais les navets salés, ça s'achète quand vous allez à Krautergersheim, qui est juste le village à côté. C'est la capitale de la choucroute. Donc Krautergersheim, Kraut veut dire chou. Donc chouville pour les Français. Et donc là, vous avez des gens qui fabriquent des navets salés. Vous allez à la choucrouterie Hadès. Ils vous vendent aussi bien de la choucroute, mais c'est une choucroute qui s'appelle les fils d'or. C'est-à-dire que c'est des vieux choux et d'une vieille variété, et donc les fils sont de la choucroute sont très fins et très longs. Ça, c'est la meilleure des choucroutes qui existent. C'est différent de ce que font les autres choucroutiers, et lui, il fait aussi des navets salés. Donc, vous amenez un petit pot de 5 kilos et vous remplacez donc les choux par les navets salés.
Les bredelles, ben c'est des bredelles maison. Il y a plus de 25 sortes et c'est avec du beurre et fait avec amour.
Qu'est-ce que ça veut dire, bredelles, ça ?
Bredelles, c'est les petits gâteaux de Noël d'Alsace, en fait, qu'on fait toujours à la période de Noël.
D'accord. Donc, je vois qu'il y en a aussi à l'anis.
Oui, les anis bredelles, comme on les appelle. Et voilà, ben, ça fait partie des différentes sortes de...
Alors, comment vous qualifieriez-vous le Noël alsacien ? Parce qu'on a l'impression, bon, nous on est de Reims, on a un marché de Noël important, mais nous on trouve que c'est presque plus beau quand même ici.
Mais bien sûr que c'est plus beau en Alsace, c'est les plus beaux marchés de Noël. Donc ils sont gourmands, ils sont illuminés, et n'hésitez pas à venir nous voir.
Après une bonne nuit dans notre gîte, nous retournons à l'église pour la messe dominicale. Le père Antoine, qui est le curé du secteur d'Aubernay, tient à faire un petit coucou aux auditeurs de Radio Primitive.
Donc je suis avec le père Antoine, qui salue ses paroissiens à la sortie de la messe. Qu'auriez-vous à dire ?
Ben, et c'est important de saluer les paroissiens à la fin de la messe, hein, vu que vous parlez de ça, parce que l'aspect humain, l'aspect relationnel est très important dans tout simplement notre vie de chrétien. Et notamment, quand nous célébrons la messe, il y a Dieu et il y a les autres, n'est-ce pas ? Et donc c'est important de tout simplement de veiller à ce que les relations entre les chrétiens et le prêtre soient le meilleur possible, quoi, voilà. Parce qu'on ne peut croire en Dieu que si effectivement on a le souci des autres. À tous vos auditeurs, je souhaite donc un très bel avant et déjà un bon Noël.
Nous devons, hélas, quitter nos sympathiques Niedernois qui ont su nous faire découvrir leur village si attachant et plein de vie. Donc merci au dispositif 65+, d'avoir rendu possible tous ces échanges au micro de Radio Primitive. Et pour ne pas oublier cette belle semaine, écoutons un chant traditionnel d'Alsace. Vous êtes toujours sur Radio Primitive, nous sommes avec vous en direct pour vous parler de nos passions et de nos questionnements. Joël est passionné de radio depuis sa plus tendre enfance, il va vous en dire plus tout de suite sur le 92.4 FM à Reims.
Moi et la radio, toute une histoire. La radio m'accompagne depuis l'enfance, dispensatrice de musique, de littérature, de poésie, de dramatique et bien sûr d'informations bonnes ou mauvaises, surtout mauvaises. Petit, je voyais la radio comme un instrument magique. Comment de ce poste en bois et à lampe, éclairé sur le devant, pouvaient provenir des paroles, de la musique, sinon parce qu'il y avait, caché à l'intérieur, de petits bonshommes et des petites dames. Aussi, mes parents se plaisaient à me le faire croire. En grandissant et avec quelques explications, j'ai fini par ne plus y croire, comme j'ai fini par ne plus croire au Père Noël. Mais, contrairement à Noël, la magie de la radio a perduré. Quelle joie de tourner le gros bouton qui déplaçait le curseur sur le cadran illuminé, à la recherche, entre les parasites, des stations au nom qui me paraissaient si exotiques et si lointaines, inatteignables sinon grâce à la radio. Hilversum, Oslo, Bucarest, la BBC, Tirana parfois. C'était merveilleux d'être en contact avec le reste du monde, le bout du monde, et merveilleux d'entendre différentes langues. Ce poste radio, peut-être notre bien le plus précieux, trônait sur le buffet et il était une fenêtre sur le monde. Mais au début des années 1960, il fut remisé au placard, victime du progrès. Le transistor fit son apparition, que l'on pouvait emmener partout où l'on voulait. Ce que ne manquait pas de faire beaucoup de gens au mépris des oreilles de leurs voisins de pique-nique ou sur la plage. Les années 1960, c'est aussi le temps de la jeunesse qui s'affirme notamment grâce à sa musique. Le rock et le yéyé. Enfin, ça bougeait. Pas question de manquer la messe journalière de « Salut les copains » et son hit-parade. Johnny, Sylvie, les chats sauvages, les chaussettes noires nous faisaient danser le twist. Et bientôt les groupes anglais. Quelle découverte que ces groupes. Les Beatles, les Stones, les Kinks, les Who, et leurs cheveux longs et cette dégaine qu'ils avaient. Un monde nouveau que les adultes voyaient et entendaient avec réprobation. Mais il y avait des choses plus sages, plus consensuelles. Le feuilleton de Zappy Max, sponsorisé par une marque de lessive, Sunil, qui avait lancé l'expression « ça va bouillir ». Et puis le jeu des 1000 francs, une fortune, présenté par Roger Lanzac et plus tard par Lucien Jeunesse. Nous étions épatés par le savoir des candidats. Et qui t'y double ? Quel suspense qui pouvait durer des jours et des jours. Le samedi soir, ou le dimanche soir, place à l'angoisse, avec la dramatique, les maîtres du mystère, et sa musique inquiétante et bizarre, interprétée aux ondes Martenot. J'appris plus tard que cet instrument avait été inventé par un violoncelliste, Martenot, qui s'était inspiré des ondes radio pour créer son instrument en 1922. Et entre tout cela venaient se glisser les nouvelles du monde. Les bulletins d'information diffusaient des nouvelles de l'Algérie où se terminait une guerre qui ne disait pas son nom. Sans être illustré par les ondes Martenot, la guerre froide, qui n'était pas si froide que cela, nous inquiétait. À Cuba, nous étions passés à deux doigts de la guerre nucléaire. Et puis le temps passe et la radio est toujours là et accompagne les événements de mai 68. On écoute en direct sur Europe 1 les manifestations à Paris, dans lesquelles des manifestants ont aussi l'oreille collée au poste pour savoir eux aussi ce qu'il se passe. L'époque changeait à nouveau, de nouvelles émissions apparaissaient, plus libres et destinées aux jeunes, par exemple Campus de Michel Lancelot. Émission dans laquelle il invitait les écrivains, les chanteurs et les musiciens les plus prestigieux de l'époque et diffusait les groupes anglais et américains. Mais il y avait toujours le monopole d'État sur les ondes et un ministère de l'information que dirigeait Alain Perfitte. Tout cela était étouffant. Les besoins de liberté et d'expression aboutirent au milieu des années 70 dans la mouvance contestataire et d'extrême gauche à la création des radios libres qui émettaient clandestinement en se cachant des autorités. Combien ont dû remballer leur matériel vite fait bien fait pour échapper à la police. À Reims, c'est radio manivelle que l'on pouvait écouter quand le vent voulait bien souffler dans le bon sens. Aujourd'hui, pas de problème pour écouter cette radio devenue radio primitive sur 92.4. Enfin, en 1981, et l'accession de la gauche au pouvoir, le monopole disparut. Une promesse tenue, celle-ci, et les radios libres fleurirent partout. Et nous voilà cet après-midi. Malgré l'Internet, la multitude des chaînes de télévision, le téléphone mobile, la radio est restée une source d'information, de distraction, de culture et de liens. La radio, une fidèle compagne. Et maintenant, pour illustrer mon propos, les fameuses ondes Martenot sur lesquelles Thomas Bloch improvise. Dernier sujet de cette émission de radio réalisée par les 65+. Nous avons passé plusieurs après-midi chez Radio Primitive pour préparer des chroniques en lien avec nos centres d'intérêt. Maintenant, Catherine réfléchit au lien entre les générations.
Oui, c'est à mon tour de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de se situer par rapport aux générations. Et moi, par exemple, née exactement au milieu du siècle dernier, je remarque une très grande différence entre, d'une part, la génération de mes grands-parents et la mienne en tant que petite fille, et d'autre part, ma génération en tant que grand-mère et mon petit-fils, actuellement âgé de 6 ans. Un siècle sépare le plus âgé du plus jeune, en gros. Et pour ces deux couples de générations, la question de l'éloignement géographique ne jouait pas, puisque aussi bien mes parents et mes grands-parents habitaient à Orléans, avec moi, et d'autre part, moi, à Reims, je suis aussi éloignée de quelques centaines de kilomètres de la génération du petit-fils qui est en Alsace. Ce que je remarque par rapport à mes grands-parents, c'est que je n'ai jamais séjourné seule chez eux sans que mes parents soient là. Je n'ai pas de souvenir non plus de sorties culturelles ou autres seules avec eux, enfin je veux dire sans les parents. Quand on rencontrait les grands-parents, c'était la famille entière qui se déplaçait d'Orléans aux Ardennes, à Charleville ou aux Ardennes. Nous étions hébergés chez eux. Et je n'ai pratiquement qu'un seul souvenir de vacances passées ensemble sur trois générations entières lieux. Il s'agit d'un séjour sur la côte d'Opale, au bord de la mer, que mon grand-mère, d'ailleurs, voyait pour la première fois. J'avais 5 ans environ. Et il y a des photos qui montrent cette grand-mère, mes parents, moi-même, mes frères et sœurs sur la plage. Donc, en fait, on ne peut pas dire que les contacts, même physiques, étaient inexistants, mais il n'y avait pas de quotidien vraiment partagé. On vivait à côté les uns des autres, mais pas vraiment ensemble. Et pourtant, l'intérêt et l'amour porté aux grands-parents, bien sûr, il était là. J'ai un souvenir ému des jeux, des jouets que mon grand-père, dans les Ardennes, fabriquait pour nous. C'est les enfants, en particulier un petit moulin en bois qu'il peignait de couleurs vives et qu'on faisait tourner dans la rivière. Il nous fabriquait aussi des gaules, ce sont des cannes à pêche. Mais jamais il n'aurait eu l'idée, par exemple, de pêcher avec nous. C'est-à-dire, il pêchait de son côté et nous, les enfants, de notre côté. Alors, je remarque une grande différence avec mon présent actuel, c'est-à-dire moi, grand-mère, et mon petit-fils. Ce petit-fils m'a été confié en responsabilité entière très jeune, enfin à quelques mois. Je m'en occupais pour les tâches maternelles, en quelque sorte, comme sa mère et son père, c'est-à-dire le changer, le promener, le biberon, etc., quand ma fille avait repris le travail. À partir de 3 ou 4 ans, il pouvait aussi séjourner seul chez moi. Et là, bien sûr, les jeux, les contacts physiques et ce que j'appelle les activités quotidiennes étaient partagés. C'est-à-dire, on se douchait ensemble, on se lavait les dents ensemble, etc. Plus les loisirs, bien sûr, des jeux de cartes, des jeux de société. Quand je suis en Alsace, chez lui, je l'emmène à l'école, nous allons à la piscine, nous passons des vacances ensemble, par exemple, cet été en Auvergne. Alors, ça finit par m'interroger, en fait. Et je me suis demandé pourquoi de telles différences en si peu de temps, finalement. Car je sais que je ne suis pas un cas isolé quand j'en discute avec mes connaissances. Donc, il y a des raisons objectives à cette évolution des rapports entre les générations. Alors, d'accord, nos grands-parents ont vécu les guerres du XXe siècle, après celle de 1870 qui a été particulièrement cruelle en Ardennes. Donc, un grand-père était invalide de la Première Guerre mondiale. Le deuxième avait survécu à 2 ans de captivité et de déportation en Allemagne pour la Seconde Guerre mondiale. Bon, donc ces passés étaient très lourds pour eux. Alors, des facteurs qui expliquent ce changement dans les mœurs, je pense que c'est par exemple l'allongement de la durée de vie. Et surtout, ce dont ma génération profite particulièrement, l'allongement des années de retraite en bonne santé. Quand je vois une photo de ma grand-mère à l'âge de 60 ans, je vois vraiment une vieillarde. Elle ne marchait déjà plus. Quand je vois des photos de moi à 60 ans, eh bien, j'avais encore plusieurs années d'activité professionnelle à assumer avec l'allongement de la durée de la vie professionnelle. J'ai quand même déjà travaillé 7 ans de plus que ma mère. Donc, une meilleure santé et surtout une meilleure santé plus longtemps explique aussi, ou s'explique aussi, enfin, je veux dire, ces changements de génération s'expliquent aussi par la meilleure santé plus longtemps et l'amélioration des conditions de vie, de l'alimentation, les conditions d'habitation. Hein, donc, dans les Ardennes, mon grand-père n'avait jamais eu l'eau courante. Bon, il y a, je pense, ces raisons objectives. On les voit aussi dans l'image renvoyée de l'âge dans les médias. Par exemple, regardez un vieux livre d'images. Vous voyez les vieux. La vieille, par exemple, la vieille grand-mère qui tricote avec son chignon gris, etc. Elle a un plaid sur les genoux au coin du feu. Cette image a complètement disparu des publicités actuelles, par exemple, où vous voyez la grand-mère en super forme qui profite de ses années de retraite pour, après ses nombreux divorces, aller sur le site de rencontre. À la retraite, vous n'êtes pas vieux, vous êtes un jeune seigneur. Donc, les vieux ont l'air moins vieux plus longtemps. Pour les raisons subjectives à cette évolution des mœurs et de l'image, je crois remarquer une sorte de, enfin, ce que j'appelle un nivellement des générations, c'est-à-dire que les notions de distance créées par le respect, l'autorité, ces notions s'estompent. Et je pense que la génération de mes parents ont fait la transition. Ça se remarque aussi dans le domaine de l'entreprise. On parle maintenant de hiérarchie plate ou de hiérarchie horizontale. Votre chef, vous le tutoyez, par exemple. Il y a une individualisation qui fait qu'un individu égale une voix. Et c'est pareil pour les générations. D'ailleurs, vous dites maintenant « papy », ça ressemble à « papa ». Vous dites « mamie », ça ressemble à « maman ». Les papis et les mamies sont sur le même plan. Nous constatons aussi la très grande importance de l'enfant et de l'enfance dans la société actuelle. La famille est concentrée sur l'éducation, la formation de l'enfant. Vous lui créez un compte épargne-études au berceau. Joli cadeau de baptême. Du coup, il y a un renversement. Ce ne sont plus les enfants qui assurent la vieillesse des parents. Et encore moins des grands-parents qui, normalement, avaient disparu autrefois. Ce sont les grands-parents, actuellement en pleine forme, détenteurs du patrimoine, courtisés par la publicité, qui aident les enfants et les petits-enfants à prendre leur place dans la société. Ces réflexions sont très subjectives. Elles sont sans prétention. À titre personnel, moi qui suis pratiquement entre deux âges, je me réjouis naturellement d'avoir des souvenirs nombreux, précis, de mes grands-parents, malgré ce que je juge, après coup, rétrospectivement, avoir été une distance entre eux et moi, un certain manque d'expression, en tout cas, de l'amour et peut-être même un manque de chaleur quelquefois. Mais ça, c'est mon jugement d'aujourd'hui avec mon regard d'aujourd'hui. Je suis de mon temps, mais je me réjouis encore, bien plus, de profiter maintenant avec mon petit-fils de la familiarité, de la proximité. Par exemple, le matin, quand je fais semblant d'être endormie et qu'il me saute dessus en hurlant à 6h30, là-dessus, grosse rigolade, chatouille diverse, on joue dès le réveil, et ainsi de suite. Jusqu'à la lecture du soir au coucher, il est blotti contre moi, bon, quelquefois pas blotti contre moi, mais il écoute. Il est même arrivé qu'on s'endorme en même temps. Victor Hugo a écrit « L'art d'être grand-père », comme quoi l'intérêt pour les enfants et les petits-enfants, ce n'est pas nouveau. C'est l'expression de cet intérêt qui a changé et qui changera encore, bien sûr. Je n'aurai sans doute pas l'occasion, sauf si ces années se prolongent après la retraite, de savoir ce que pourra raconter un jour, peut-être, le petit-fils sur la génération de ses grands-parents et donc sur moi. Alors, la ronde des générations et des prénoms, Marie Laforêt la chante très joliment dans la chanson « Yvan, Boris et moi » que vous entendez sur Radio Primitive 92.4.
Lorsque nous étions encore enfants, sur le chemin de Bruyère, tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle sous le nez des tourterelles. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans le même panier, et pour pas les abîmer, on allait au bal à pied. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Ça compliquait bien un peu la vie, trois garçons pour quatre filles, on était tous amoureux, toi de moi et moi de lui, l'une hier, l'autre aujourd'hui. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Dire qu'au moment de se marier, on est tous allés chercher ailleurs ce que l'on avait à portée de notre main, on a quitté les copains. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Aujourd'hui, chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient un enfant. Le monde a beau être grand, c'est à peine s'il contient nos enfants et leurs parrains. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi.
Retour à l'Alsace, où Jean-Marie a interviewé Alice, la patronne de son gîte à Niederney.
Oui, notre gîte à Niederney était tenu par un couple d'agriculteurs. Le monsieur, qui s'appelait Paul, avait 81 ans, et la patronne, 80 ans. Donc, à 80 et 81 ans, ils étaient toujours en activité. Donc la retraite à 65 ans, ça ne leur faisait pas peur. Ils sont toujours aidés par celui qu'ils appellent le commis, enfin que maintenant ils appellent leur ouvrier agricole, mais qui est pourtant en retraite, mais qui donne toujours un petit coup de main. Donc pour retracer l'histoire de leur ferme, ils ont été des fermiers, des agriculteurs traditionnels avec des céréales, du lait, du tabac. Mais ensuite, ils se sont reconvertis en vendant leurs légumes, leurs œufs, leurs lapins, leurs volailles. Donc, ils font le monsieur Sommer fait le marché tous les samedis. Donc, il charge sa camionnette. Donc, c'est quand même des gens un petit peu atypiques. Sans parler du gîte rural qu'ils tiennent, mais bon, vu leur âge, ils réservent aux habitués de longue date.
Moi, j'ai 80 ans et M. Sommer, 80 ans. Surtout céréales et pommes de terre, des légumes et légumes. On ne fait plus de vaches ni de bétail. On fait que encore, dans le temps, on avait encore du tabac. On avait des betteraves sucrières. On avait des choux à choucroute. Et maintenant, on a encore du maïs, du blé et des pommes de terre. Le tabac, c'était la culture qui nous rapportait le plus en petite superficie. Parce qu'avec le tabac, avec 2 hectares, vous cherchez plus que si vous avez 30 hectares de maïs. Parce que le tabac, il était toujours bien payé dans le temps. C'était beaucoup de travail manuel, mais ça nous rapportait le plus. On a toujours un commis qui est chez nous depuis 47 ans. On dit plus domestique, alors on veut pas dire ça. On dit pas ouvrier agricole, plutôt ouvrier agricole, mais nous on dit le commis. Il a 64 ans. Il a sa retraite. Il a reçu à 62 la retraite. Il est comme ça depuis qu'il est chez nous. Il est comme ça. On n'en trouvera plus un autre comme lui était. C'était un enfant de la DAS. On l'a cherché quand il avait 17 ans dans un foyer. Parce qu'il n'avait jamais connu de père ni de mère. Ils l'ont tout de suite pris à la maternité parce que les deux parents étaient alcooliques. Donc, ils ont tout de suite pris l'enfant, ils l'ont tout de suite placé dans un foyer.
Donc, chez vous?
Non. Ah. Et après, nous, on l'a cherché dans le foyer où il était. Ah oui. Dans les foyers, là, il y a beaucoup de jeunes, des délinquants et des trucs comme ça. Oui, c'est une belle histoire, oui. On pourrait écrire un grand livre parce qu'on avait quand même subi avec lui. Il était aussi un petit peu alcoolique. Alors, on lui a laissé faire son permis de conduire, que nous, heureusement, que nous, on l'a appris durant 2 ans. Et maintenant, il a une voiture et on lui donne pas d'alcool. On lui donne que du sirop à boire. Parce qu'il est, alcoolique, hein? Il est comme ses parents.
C'est une maladie.
C'est une maladie. Il a énormément évolué chez nous parce qu'il a vu que nous, on l'aide et puis on lui a beaucoup appris. Parce que sans cela, il serait un délinquant. Il a été élevé dans un foyer, il n'a jamais connu de famille. Wow. Nous, c'est la famille. Et puis, il est très estimé des enfants. Et des petits-enfants. Tout le monde l'estime. Au commencement, quand notre fils était encore petit, ils ont dit, Mathias, c'est qui? Le garçon qui est avec toi? Il a dit, c'est mon frère. Vous vous rendez compte? Il a pris pour le frère parce qu'il ne voulait pas dire que c'est l'ouvrier. Non, mais nous, on pourrait écrire un livre, ce qu'on a subi, parce que ce n'est pas le premier ouvrier. Nous, quand on était jeunes, on n'avait personne pour nous donner un coup de main. Il n'y avait que mon mari et moi, et on avait 3 enfants, donc on avait beaucoup de travail, surtout avec le tabac. Donc, durant l'été, on avait des jeunes qu'on cherchait aussi dans des foyers pour nous donner des coups de main. Et parfois, on était à 15 à table pour manger. Et moi, j'ai fait le repas. Et j'ai été à chercher le tabac et tout. On avait encore 25 vaches laitières qu'il fallait traire le matin et le soir, en plus du tabac. Et alors, une fois, ils ont donné une prime pour enlever les vaches laitières. On a pris cette prime, on a cessé et on a commencé le commerce. C'est là qu'on a commencé à vendre des patates et des légumes. Et on n'a plus cherché au commerce que de traire les vaches. Parce que là, il y avait énormément de dépenses. On avait le vétérinaire, on avait ci, on avait ça. Il fallait chercher des drèches à Kronenbourg. Et on avait énormément de dépenses. Des drèches. C'est les trucs, les déchets qu'ils font avec la pierre. C'était des trucs à base d'orge.
Les manges alors?
Ah oui, 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 c'était très, très bon. Parce que quand ça sort, c'est passé l'orge pour faire la pierre, après il y a les trèches. Mm-hmm. Et c'était comme une purée. Et là, on a cherché des charrettes pleines de trèches et on a donné aux vaches. Tous les samedis soirs en été, il y a des stars qui viennent. Pour chanter, il y a tous les samedis soirs, il y a des animations. Et le mercredi soir, il y a soirée, c'est pas tarte flambée, c'est une soirée, je sais même pas comment ça s'appelle. Et là, il y a énormément de gens qui se réunissent. Maintenant, c'est surtout après le Covid que le monde revient. Parce que durant les deux années qu'il y avait le Covid, c'était vraiment monotone. Il n'y avait presque personne à Aubernais. Mais maintenant, depuis que le COVID est passé, les gens reviennent. Enfin, il n'est jamais passé, il est toujours là. L'Alsace a été très frappée, surtout au commencement, il y avait énormément de morts. Oui. Et nous, on connaît un village, il y avait 8 personnes qui sont mortes au bout de 3 semaines. Oui, avec le maire, l'adjoint et beaucoup, même 2 mères qui sont mortes dans ce village à cause du COVID. C'était catastrophique. Mais ce qu'il y a depuis le COVID, il y a tellement de gens, des infirmières qui ont quitté leur métier parce qu'ils avaient ras-le-bol. Ils ne pouvaient plus. C'était trop stressant. Donc, il y a beaucoup d'infirmières qui sont parties pour faire un autre métier, coiffeuse ou je ne sais pas. Mais ils sont partis. Elles sont parties. Voilà. Et ce shit, on a fait après le décès de la belle-mère. La belle-mère habitait dedans et après, on l'a un petit peu rénové et on a fait un shit. Et puis, il y a tellement de monde qui a passé durant ces 30 ans. Donc, pour le moment, j'ai des très bons clients qui viennent assez souvent.
Merci Alice pour ce beau témoignage. Notre mission se termine, mais on pourrait la terminer par une petite blague alsacienne. Quelle est la différence entre une poule et un chapon? Une poule chapon, mais un chapon, chapon pas. Donc nous vous souhaitons une bonne fin d'année, un joyeux Noël et peut-être aller les bleus si vous voulez. Donc nous allons faire un petit coucou ensemble, tous les quatre.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir. Bonne année, bonne santé. Radio Primitive.
Ein, ihr Kinder, ist so.